Il était sous son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inarrière.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu, le 102.2. Aujourd'hui, nous allons parler d'un festival, d'une compagnie, d'une plateforme, d'un laboratoire et plus si affinité. Non, ou plutôt d'un concept, d'un dispositif, d'une idée qui a germé dans la tête d'un certain Maxime Mention. Une idée qu'il a mis en acte. Et voilà, on n'y est, pas besoin de grand écart. En acte, avec un S final entre parenthèses. C'est de ce projet dont nous allons vous parler aujourd'hui. J'ai rencontré Maxime Mention dimanche dernier, un dimanche ensoleillé pour l'un, un dimanche pluvieux pour l'autre, question de point de vue. Si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez peut-être entendre la grêle qui va tomber au cours de l'émission. Et des bruits de fond, parce que nous sommes au Théâtre des Clochards Célestes. Et tout ça fait sens, parce que justement, dans ce théâtre, fin septembre, 3 reprises d'En Acte avaient été reprises. Vadim à la dérive, un texte d'Adrien Cornagia, mis en scène par Louise Vigneault. Pardieu, Chant de gare, un texte de Julie Rossello, mis en scène par Julie Guichard. Et enfin, Zone de vie, un texte de Vincent Badi, mis en scène par Philippe Mangenot. J'ai parlé de dispositif. Eh bien, En Acte, ça renouvelle le processus de création en le pressant, en le compressant à travers différentes contraintes sur lesquelles nous reviendrons plus tard. J'ai donc voulu imposer une contrainte à Maxime Mention. Parler, présenter En Acte en 30 secondes. Et voilà ici donc ce que cela donne.
En Acte, en 30 secondes, ça donne quoi ?
Alors, En Acte, d'abord, c'est un festival. Festival qui est né il y a maintenant bientôt 4 ans, au Lavoir Public. L'objectif, en fait, est de créer un temps où des auteurs, des metteurs en scène et des comédiens se rencontrent, travaillent ensemble, sans pression de production ou quoi que ce soit. L'idée est vraiment de créer une sorte de laboratoire pour les auteurs, c'est-à-dire d'expérimenter l'écriture de plateau au plateau. Ils ont une contrainte, c'est faire écho à l'actualité. Et c'est un texte qui fait...
Waouh, c'est impossible.
Ou bien ouais, bon.
Ouais, et sinon, c'est une contrainte.
Ouais, c'est vraiment une contrainte. Non, mais je suis pas suffisant. Puis il y a trop de choses à dire, en fait.
Oui, alors du coup, on va se le refaire étape par étape. Donc, ça a commencé au Lavoir Public.
Voilà, on a eu de la chance d'être accueillis par Olivier Rey, qui était tout à fait d'accord pour accepter le projet. Parce que le projet, à la base, c'était pas un festival regroupé sur deux semaines, un temps en cours. C'était vraiment quelque chose, c'était tous les mois, en fait. Tous les derniers lundis de chaque mois, on avait une création, créer un spectacle avec un metteur en scène à chaque fois différent et un auteur à chaque fois différent aussi et des comédiens comédiennes pris parmi un vivier en fait de volontaires et voilà en fait l'écriture se base sur un principe simple, c'est faire écho à l'actualité, un texte de 45 minutes pour 5 acteurs maximum. Voilà, la mise en scène, la mise au plateau se fait en 12 jours maximum. Il n'y a pas de régie son ni de régie lumière, donc il n'y a pas d'effet technique en fait. C'est vraiment un théâtre très tôt. Et il y a des accessoires, de l'accessoirisation. On a tout un code aussi à cet endroit-là, de la scénographie, un code costume aussi, c'est-à-dire on définit comme ça des lignes à suivre pour être dans une esthétique en fait commune. Et puis après, tout doit naître du très tôt. C'est la volonté de faire ça, c'était et d'une part proposer à des auteurs d'avoir un laboratoire d'écriture, de pouvoir tester leur écriture, de pouvoir tester des choses et interroger aussi leurs nécessités, qu'est-ce qu'ils veulent dire, voilà, par cette manière assez brute en fait, hein, du théâtre. Et puis aussi de se faire rencontrer les gens, c'est-à-dire se dire bon ben nous on va choisir un auteur, on va choisir un metteur en scène, on va les mettre ensemble. C'est nous qui avons décidé du binôme. Et puis, le metteur en scène va choisir une distribution. On le pousse à essayer d'aller découvrir d'autres acteurs avec qui il travaille habituellement. Et on essaie de faire en sorte qu'on puisse se rencontrer, quoi. Se rencontrer vraiment. Puis, l'objectif, c'est de permettre aussi aux metteurs en scène et aux auteurs d'être déchargés un peu de tout ce qui est organisationnel. C'est-à-dire, on prend en charge les plannings, les salles de répétition, on prend en charge tout ce qui est production. Voilà. C'est vraiment, on leur a dit, venez profiter, faites du théâtre, éclatez-vous, quoi.
Tu as parlé des nécessités, et justement, c'est un mot que j'ai vu dans la présentation d'Anna, qui a été souvent repris par les personnes qui parlent de ce festival, cette plateforme en acte, ces nécessités, donc de nécessité pour les auteurs, nécessité pour les comédiens, de faire appel à des auteurs, revivifier un répertoire français, par exemple.
Je sais pas si c'est revivifier un répertoire français. En tout cas,
tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai interrogé, là, il y a quelques jours, pour le festival Sans Interdit, des spectateurs.
Ouais.
Sans Interdit, en fait, ils accueillent des compagnies des quatre coins du monde.
Ouais, c'est super.
Et ils me disaient, on a marre du théâtre français qui, justement, est souvent un peu cloisonné. Alors, c'est un cliché, mais qui est parfois un peu cloisonné dans un répertoire français un peu guindé. Et que ça leur faisait plaisir de voir du théâtre étranger. Oh. Et c'est pour ça que je te posais la question, c'est aussi remettre. De valoriser plutôt les auteurs, mais les auteurs contemporains de nos jours, est-ce que c'est nécessaire?
Ouais, après, je pense que les personnes qui disent ça vont pas spécialement au théâtre, alors parce qu'en fait, il suffit de venir au Clochard Céleste, par exemple, au théâtre de l'Élysée, et d'ailleurs dans les institutions plus importantes, même TNP. Enfin, il y a toujours, en fait, au bout d'un moment, il y a toujours des spectacles qui sont incroyables, impressionnants, qui font un bien fou. Pas plus tard, qu'avant-hier, moi je suis allé au TNP, je suis allé voir Illusion, c'est formidable. Donc bon, ça c'est une chose. Après, je trouve que la richesse du Festival Sans Interdit, c'est vraiment de découvrir comment ailleurs qu'en France, on conçoit le théâtre, on l'interroge et quelle place il prend et à quel endroit il est interrogé d'ailleurs. Et le souhait d'En Acte, c'est pas de revivifier un répertoire français, absolument pas d'ailleurs, c'est simplement de se dire moi j'ai pas travaillé au TNP à ma sortie d'école, j'y suis resté 3 ans, puis après j'ai quitté la troupe, mais j'ai eu la chance.
Tu étais à l'ENSAT, je me souviens.
Ouais, voilà, c'est ça. Oui, j'étais à l'ENSAT en fait. J'ai eu la chance de travailler avec Christian Scaretti, et puis après de travailler aussi sur différents spectacles, et entre autres des auteurs, et des auteurs que tout le monde connaît d'ailleurs, Molière, Marivaux, entre autres. Voilà. Et jouer ces auteurs-là. Être avec eux, enfin les sentir au plateau, mais vraiment au plateau très tôt, être là, c'est impressionnant, c'est incroyable. On se rend compte à quel point l'écriture est vraiment liée au jeu, en fait. On sent que ça se voit, c'est des auteurs qui, qui mettaient en scène, qui jouaient, ou enfin en tout cas qui avaient un contact immédiat au plateau. Et l'envie d'En Acte, ça a été de se dire essayons d'avoir un endroit où l'auteur puisse avoir accès immédiatement au plateau. C'est-à-dire, il va travailler avec le metteur en scène, et le metteur en scène va tout de suite penser à la question du plateau, de comment ça se joue, et il va y avoir un échange comme ça immédiat. Que ce soit connecté avec le lieu du théâtre, en fait, et pas éloigné, pas penser dans une chambre, ou vraiment penser pour ça. D'où aussi l'esthétique, c'est-à-dire brut, de très tôt. Pas de dramaturgie au noir, c'est-à-dire scène, noir, changement de décor. Non, on veut aussi voir comment la dramaturgie peut penser ça. Par exemple, y a des scènes comme ça, chez Shakespeare, on se dit, d'un coup, il y a une scène, on se dit, elle n'est pas forcément utile, mais très certainement, en fait, elle servait à ce qu'un comédien se change derrière et arrive dans... Voilà, et c'est aussi la magie du théâtre, ça, voilà. Et du coup, c'était créer un laboratoire. Parce que le training de l'auteur de théâtre dramatique, il ne peut pas se passer du jeu, en fait. Il doit être joué, il doit être mâché, quoi. Donc, c'était créer vraiment ça. Et voilà, et puis au fur et à mesure, ça fait 3 ans.
Et la forme a évolué.
Et la forme évolue, en festival, plus condensé, parce qu'après, on avait repris Paris 8 pièces, puis on condense, parce que aussi, c'est plus, au théâtre de le premier. Puis le condensé, c'est plus simple aussi, quand même. pour nous, pour l'organisation. Et puis en fait, c'est beaucoup mieux parce que il y a aussi cette envie de se rencontrer. On s'efforce dans la programmation de mélanger tous les artistes. Bon, lyonnais, on est essentiellement lyonnais parce que c'est important de travailler avec sa région, avec les artistes qui sont ici.
Et du coup,
mais c'est voilà.
Pas que dans les fruits et légumes aussi avec les artistes.
Pas de parisianisme. Vraiment travailler. Il y a tellement de comédiens formidables et de comédiennes formidables. Enfin, c'est voilà. Donc, c'était aussi créer l'opportunité de se rencontrer autour du théâtre en jouant. En se lançant, en créant, voilà, donc ça crée, on crée quand même 10 pièces.
Pour le festival. Donc là, il y aura un festival cette année?
Il y a un festival cette année,
ce sera
au TNP, donc ça, on a énormément de chance, on est accueilli au TNP dans le grand théâtre, mais dans la petite salle, Jean Villard. Ce sera du 27 février au 17 mars. Cette année, ce sera 3 semaines. On garde 2 semaines donc de création de commandes. Hein. On passe des commandes aux auteurs. Il y aura donc 10 pièces créées à cette occasion.
Elles sont déjà en cours de création.
Là, elles sont en cours d'écriture à partir de là maintenant. En fait. Là, elles commencent.
Et c'est eux qui choisissent les thèmes d'actualité.
Ils sont absolument libres.
Mais ce sont un thème d'actualité. Enfin.
Alors voilà. En fait, là où on parle de nécessité, c'est que on a choisi de laisser les auteurs absolument libres du thème qu'ils souhaitent aborder. D'ailleurs, je pense qu'on est l'un des seuls festivals, en fait, à passer commande et non pas à sélectionner des textes déjà écrits. C'est-à-dire que on fait le pari d'un auteur. On dit, vas-y, tu vois, on te donne la place de d'écrire et d'essayer et voilà. La commande, elle est simple. Je la redis. Donc, c'est pour 5 acteurs maximum, mais autant de personnages qu'ils veulent. Mmh. Il n'y aura que 5 acteurs. Une heure, pas plus d'une heure, voilà. Après c'est un théâtre de très tôt, donc sans régie son, sans régie lumière, il faut bien le penser, ça aussi, ça peut se penser dans l'écriture. Et j'ai vu ce que je voulais dire. Ah oui, et le plus important, c'est-à-dire que c'est la première contrainte, c'est faire écho à l'actualité. Faire écho à l'actualité, ça veut tout et rien dire.
Est-ce que tu aurais des exemples des anciens?
Il y en a beaucoup maintenant. On est à 10 par, ça fait, on a plus de 26 livres. Ouais. Donc en fait, ça fait des belles créations, il y a des textes vraiment formidables. Et en fait, je ne vais pas donner d'exemple parce que thème-là, pour moi, en fait, il est vraiment lié à l'auteur ou à l'autrice. C'est-à-dire que c'est questionner, pour nous, c'est vraiment questionner sa nécessité. En fait, tout simplement, voilà. L'actualité, qu'est-ce que ça veut dire l'actualité? Moi, j'en sais vraiment rien, en fait. Qui le sait? Tout ça peut être interrogé de 1000 façons différentes, en fait. Ce sera vraiment propre à la personne à qui on fait ça.
De mauvaises herbes insoumises, les ardes, les trottoirs. Je ne dors pas, j'ai l'insomnie de ma cité dortoir. Toute ma vie, j'ai rempli mon caddie d'illusions. Moi, je téléphone, je télécommande et je télévision. Silence, on tourne, on vit, on rit, mais ça ressemble à du playback. Mon banquier, c'est James Brown et tous les mois, c'est payback. Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire. On veut être star. À l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, se vend sur PayPal. On intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans les cuisines de l'Audimat. Du pain et des jeux, pour calmer les ventres creux. Du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Je prends la plume pour prendre de la hauteur. À trop courir après mes rêves. À trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard sonifère. J'ai voulu découper les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier. Et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages. Voyez les valises sous mes yeux, elles m'invitent au voyage. Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image. Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage. je prends la plume pour prendre la hauteur. Pas trop courir après mes rêves. Pas trop courir après mes rêves. J'ai fabriqué des mondes, j'ai mis des mots et des rires, des pleurs. Et puis le temps, lui, a buriné mes rides et j'ai peur. Je cours, je veux d'autres odeurs pour mes narines. Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre. La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre. Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre. J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves. Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large. J'ai vu mon île, tu sais. Touché au but, j'y vais enfin, j'essaie. Des paquets de rimes pour que mon âme affleure. Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs. Je ralentis le pas. Je reprends mon souffle, parfois. Et y a mes rêves qui tardent face au cadran qui tourne. Pas trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur. Après mes rêves, pas trop courir après mes rêves.
Toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est l'émission du théâtre de la Gamelle. Vous venez d'entendre « À trop courir » de Gaël Faye et nous continuons d'écouter Maxime Mention sur En Acte et plus précisément le festival.
On sélectionne donc des metteurs, metteuses en scène et autrices et auteurs.
Et eux qui choisissent les comédiens,
non, comédiennes. Non, c'est eux qui choisissent les comédiens, comédiennes. Mmh. Ouais, tout à fait. Selon les disponibilités. Donc je rappelle, hein, ils ont 12 jours de répétition. Mmh. C'est texte su, ce ne sont absolument pas des lectures. C'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment du jeu. Et cette urgence-là aussi qui est donnée. C'est-à-dire, souvent, le metteur en scène ou l'auteur, autrice est là pour souffler le texte, si jamais il y a besoin, d'ailleurs. Et cette urgence dans laquelle sont les comédiens, pour moi, en tout cas, me fait énormément de bien. Moi, je suis comédien. Voilà, à cet endroit-là, je joue avec mes camarades. Je me mets aussi à cet endroit-là. Et je trouve que ça ne fonctionne qu'avec une grande générosité, en fait. Quand je vois mes camarades jouer, vraiment, je suis déjà impressionné. Et je reçois une dose de générosité comme ça, des gens qui en fait si peu de jours de répétition qui se lancent quoi, qui donnent vraiment à fond, qui donnent tout, et ça c'est vraiment formidable à sentir du point de vue du public aussi pour moi, parce que du coup on a une certaine égalité entre le public et le plateau, c'est-à-dire voilà, le comédien quand il arrive sur le plateau il en sait pas plus en fait, pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité vis-à-vis de ce qui va se passer. On est à cet endroit de fragilité, d'urgence-là, et on y va. Et vraiment, c'est super. Et puis.
Il y a un détail tout con, mais je me permets de le dire, c'est que le public n'est pas dans le noir.
Alors,
c'est bête, mais.
C'est pas systématique. Après, c'est vrai qu'en fait, on travaille des pleins feux. Ouais. Donc, comme il n'y a pas de régie lumière, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet, on est sur un plein feu. Donc, qu'on travaille, ça se travaille, un plein feu. Mais du coup, il y a souvent une forte luminosité. Et ce qui permet, en fait, d'avoir on voit le public. On peut le voir.
Et le public se sent vu, c'est ça qui est intéressant.
Ah, bah, il est présent, c'est clair. Bah, aujourd'hui, je pense que.
Ça change le rapport.
Alors voilà, aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé cette question du quatrième mur. Franchement, enfin, pour moi en tout cas, c'est bon, il n'existe plus. On a une grande, enfin, une capacité à le casser, à le remettre, enfin bref. Après, c'est des choix, c'est-à-dire que dans le plein feu, on peut décider de laisser la salle allumée aussi. Et ça, c'est propre aussi au texte et à l'envie de la personne qui met en scène le texte, la commande, quoi.
Est-ce que t'as eu des retours, enfin, je dis toi, mais même tout l'ensemble de l'équipe, vous êtes combien d'ailleurs dans l'organisation?
En fait, sur le... Disons que En Acte est devenue du coup une association, une compagnie en fait, qui est gérée par Mathilde Gamon et moi-même. Mmh. Voilà, notre président, donc c'est Jean-Pierre Siméon, que voilà, certains connaissent et qui est un auteur et moi que je trouve merveilleux. Mmh. Et voilà, notre secrétaire est Laure Charvin. Et d'ailleurs, du TNP, voilà, ouais. Et voilà, on reviendra sur Jean-Pierre Siméon, parce qu'il y a un texte qui a été lu ici au Clocher Céleste par Olivier Borle. Voilà.
Il y a une semaine de ça.
Ouais, il y a une semaine de ça. Et vraiment, c'est La poésie sauvera le monde. Mmh. Je le conseille à tout le monde. Voilà, de le lire, parce que c'est merveilleux, mais on reviendra dessus peut-être un peu plus tard. Et donc, la compagnie, voilà, les vraiment, disons, les membres actifs sont vraiment Mathilde Gamon donc et moi-même. Et puis après, je travaille énormément avec Julie Guichard,
oui.
Louise Vigneault, Sven Narbonne aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment les personnes avec qui, ouais, on travaille beaucoup. Et après, on est très peu parce que bon, bah, c'est un festival qui ne nous fait pas vivre à l'année non plus. C'est énormément d'organisation et chacun a des choses à faire, voilà, un peu partout. Donc en fait, moi, je me retrouve là pour le moment à vraiment porter le projet aussi et à en faire la programmation. Enfin, voilà. Mais on essaye de se relayer quand même en fait. On essaie de se relayer comme on peut. Voilà.
Et il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé par rapport à En Acte, c'est qu'il y a aussi une plateforme.
Oui.
Où donc il y a des textes tous les 13 du mois, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça. Alors ça c'est assez important parce qu'en fait, les premières années, quand on était donc au lavoir public, on a fait un pari un peu fou, c'était une place achetée, un livre offert. Grosso modo, voilà. Ce qui est, donc en fait, on a édité des livres. Dans l'idée aussi de diffuser les écritures en fait, parce que un auteur dramatique a besoin d'être lu pour être joué, voilà.
D'être publié,
en tout cas diffusé. Mmh. Et puis voilà, la réflexion a grandi. Voilà, on a édité des livres. On continue d'éditer d'ailleurs. C'est de l'auto-édition. Hein.
D'accord.
Il y a un livre qui sortira très prochainement d'ailleurs, qui est un livre qui s'appellera Lieux secrets, qui regroupe voilà plusieurs pièces, qui est un projet mené par justement la compagnie pour le coup En Acte en dehors du festival. Le livre sortira très prochainement, j'ai pas les dates encore précises.
Et on pourra le retrouver où?
Et on le retrouvera, je pense, sur notre site très certainement.
D'accord,
et en
c'est
tout cas
qui prenait en charge la vente.
Ouais, exactement. Ouais, on fait en fait des précommandes. Mm-hmm. Là, elles sont déjà faites, mais on pourra en acheter et on peut en commander d'ailleurs sur notre site internet. Il suffit de nous écrire. Voilà, c'est un texte lieu secret. C'est un projet qui réunit. Donc, je fais vraiment une aparté. Hein, je suis désolé là-dessus.
Bah,
mais
non,
c'est un texte c'est plusieurs textes qui questionnent la résistance. Qu'est-ce que résister aujourd'hui au regard de la période de l'occupation, à Villeurbanne particulièrement. Même si les textes sont vraiment extrêmement, je sais pas, riche, très développé là-dessus. Et donc, c'est des textes, il y a 5 contes contemporains et une pièce immersive, en fait, de Perrine Gérard. Voilà. Les contes contemporains, c'est Adrien Cornaggia, Pauline Noblecourt, Romain Nicolas. Et il y a aussi un conte sonore de Sophie Berger, qui est vraiment super aussi. Et puis un texte qui a été écrit par les lycéens du lycée Face, en fait, une classe de première du lycée Face. Voilà. Suite sur cette réflexion d'édition, donc on continue à côté. On s'est dit comment aujourd'hui diffuser davantage les textes de théâtre et les auteurs dramatiques, en fait. Sachant que souvent pour être joué il faut être lu, mais pour être lu il faut être édité, mais souvent pour être édité il faut aussi être joué. Et donc il y a
le serpent qui se mord la queue.
Ça peut paraître un peu comme ça, c'est pas vrai à chaque fois, mais c'est pas forcément évident en fait en auteur dramatique de pouvoir se faire éditer, et de pouvoir être lu, et lu par qui d'ailleurs et comment, dans quelles circonstances. Du coup on a créé une plateforme numérique qui a un an, qui fête ses un an.
Ouais,
une plateforme numérique. Et en fait, sur cette plateforme, tous les mois, on fait appel à un auteur d'un texte de 30 minutes de lecture, pas plus, qui fait écho à l'actualité. Les abonnés, parce qu'on peut s'y abonner, on essaie d'avoir une plateforme participative, en fait, c'est-à-dire que pour 1,75€ par mois, on reçoit un texte inédit tous les mois, plus un SMS poétique.
Wow.
Ouais, et ça, ouais, c'est le petit truc que moi j'apprécie, et c'est là où je rejoins dans l'idée, ou je sais pas, mais en tout cas où là je voulais faire écho justement à La poésie sauvera le monde de Jean-Pierre Siméon, parce que voilà, il parle du fait d'acter. Alors j'avais quelque chose, mais je sais pas. Voilà, il dit au bout d'un moment, il dit ça. Il dit définir la poésie comme un acte de conscience. Je dis un acte et non un fait. Un acte de conscience aigu. Elle est un extraordinaire accélérateur de la conscience, dit Roberto Juarez. Ça, je sais pas comment on dit. Bon. Et ça, je trouve ça formidable. Elle est effectivement un extraordinaire accélérateur de la conscience. Et alors, ce petit SMS-là, il arrive souvent le 12 chaque mois. Il est écrit par l'autrice ou l'auteur qui a écrit le texte qu'on découvrira le 13 de chaque mois, et il arrive comme ça dans la journée comme une petite bouffée d'air.
C'est
voilà,
Kinder surprise.
Alors voilà, si on veut, ça peut être des Kinder surprise pour certains. mais c'est le petit plus, et c'est ça, voilà, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de pouvoir surprendre à cet endroit là donc on cherche à développer cette plateforme là parce que évidemment on est toujours très peu à gérer, donc ça fait beaucoup de choses, mais on s'est dit bon voilà, une plateforme numérique pour découvrir des auteurs, lire des textes accessibles en permanence aussi, un soutien d'1,75€ par mois qui nous permet, quand on arrivera à 500 abonnés, de rémunérer les auteurs pour leurs commandes, d'éditer des livres aussi, voilà, et de financer le festival. Et puis d'ailleurs les abonnés de qui nous suivent depuis là un an recevront très prochainement chez eux aussi un petit livret numéroté des illustrations d'Augustin Roland, qui nous a suivi là pendant toute la première année, qui a illustré tous les textes aussi. Voilà.
D'accord.
Donc il y a quelque chose qui arrivera dans la boîte aux lettres de tous nos abonnés très prochainement.
D'autres Kinder surprises.
Non mais je trouve que voilà, acter quoi, être en acte pour la poésie, pour la... Voilà, moi, je viens vraiment... Je suis très éloigné de la littérature, et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien de découvrir ça. Je trouve que c'est une nourriture de l'âme, et on a envie de la partager le plus possible. Voilà, donc on cherche des manières de transmettre, de partager ce goût des mots, ce goût de l'évasion.
Voici venu le temps où s'apaise les cœurs, où s'assoupit les corps, où la fourberie des hommes ne s'esclave pas encore. Et moi je rêve, au milieu de la nuit, je regarde marcher les anges dans la brume de minuit. Me voici devant une rivière d'étoiles, le crépuscule scintille et me dessine une toile. Les eaux se bercent, invitent à mettre les voiles. Entends-tu le chant des vagues qui précède la houle? Les heures s'égrènent dans la vie timide d'une nuit. Au loin là-bas, je vois la ville ardente qui de ses mille feux luit. Sur cette rade solitaire, je questionne les esprits qui me comptent l'histoire du temps qui sans cesse fuit. Demain je serai un autre, demain je serai des vôtres, demain je serai un pauvre. Demain je ne saurai pas, vous ne me verrez pas, je ne vous en voudrais pas, demain je n'y pense pas. Je regarde la nuit s'offrir à moi comme un appât, et jusqu'à ce que jour s'en suive, je saute dans ses bras. La nuit m'appelle, qu'est-ce qu'elle est belle, elle m'enveloppe loin des étincelles. La nuit m'appelle, elle est profonde et frêle. La nuit m'appelle, qu'est-ce qu'elle est belle, elle m'enveloppe loin des étincelles. Chaque soir elle est ma chapelle, je m'en promesse à elle. Puisque les illusions sont les seuls luxes à la porte de tous, que peut-on demander au ciel un soir de pleine lune, si ce n'est de faire danser ses lumières sur les flots de nos lagunes? J'ai arpenté tous les asphaltes exsangues, traînant avec moi mes espoirs déchus, pour venir ici goûter un peu de cette beauté péchue, tutoyer les alter ego et les atomes crochus. Au diable toutes les aventures du jour, les ruines et les fortunes, les fuites et les bévues. Je veux me nourrir de toutes les dérobades opportunes, contempler les astres qui font de l'art, la nature qui surpasse l'or, son faste magnifique que nos quotidiens minorent. Je veux conjuguer sans répit avec mon corps qui dort. Mon âme vogue encore à la recherche de ses rêves, où les riens deviennent des tout, où les gueux deviennent des rois, où les gueux sont des rois. Nulle clarté sans nuit, nul silence sans bruit, laissez-moi goûter aux ténèbres, car à l'ombre de réverbères il se peut que la lumière soit plus claire. Laissez-moi consommer ma discrétion, m'effacer dans le noir, comme une nuit réparatrice qui transforme l'éveil en lendemain, comme une promesse répétitrice qu'après la nuit viendra toujours demain. La nuit m'appelle, qu'est-ce qu'elle est belle, elle m'enveloppe loin des étincelles. La nuit m'appelle, elle est profonde et belle.
Nous venons d'écouter Ghislain N. Et qui est Ghislain
N? Ghislain N, c'est l'auteur du mois d'octobre. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au Clochard Céleste. Et voilà, c'est quelqu'un de passionnant et qui écrit là des nouvelles, un recueil qui va être édité d'ailleurs, donc pas aux éditions En Acte, mais une autre édition d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolé. Voilà, vous pouvez suivre, aller découvrir son écriture. Ses chansons et voilà, c'est quelqu'un qui vit à Lyon, qui est très talentueux, que j'encourage vraiment à aller découvrir cet artiste.
Et ben on prend donc Ghislain N et nous venions d'écouter le titre La Nuit. Nous allons continuer à écouter encore une fois l'émission consacrée à En Acte avec Maxime Mention pour cette dernière partie, une partie qui va peut-être mettre un peu plus en lumière pourquoi Maxime Mention est venu sur Radio Canu.
Pour continuer sur cette question de la diffusion des auteurs dramatiques, y a la plateforme numérique, on essaie d'éditer, mais c'est pas suffisant. On dit qu'en fait, moi je me suis dit, ouais, il faut plus, il faut avancer, il faut aller... faut un autre champ, quoi, voilà, de diffusion.
Une autre visibilité.
Ouais, voilà. Et puis, la réflexion s'est portée, en fait, sur la radio, l'écoute. On parle ici de poésie, de littérature, donc aussi de lecture personnelle, hein, mais aussi, du coup, d'écoute, c'est savoir écouter, regarder avec les oreilles. Et on s'est dit, pourquoi pas créer des petites radio-fictions. Donc on vous a proposé en fait des petites radio-fictions inspirées des textes des auteurs de chaque mois. Ces radios, ces petites mini-fictions, elles entreront aussi dans un cadre spécifique au Festival En Acte, c'est-à-dire avec un code, avec des règles.
Des
contraintes, exactement. Et voilà, des contraintes qu'on est encore en train de définir, mais qui ressemblent plus ou moins à ça, c'est-à-dire... 3 lieux maximum, 3 prises, et c'est tout. Voilà. Pour en fait être dans une certaine efficacité, aller droit au but de ce qui se passe. Avoir certainement une matière un peu brute aussi d'enregistrement. Questionner l'écoute, la fiction, la radio. On va commencer à cet endroit-là. Travailler avec un sondier aussi, essayer d'habiller l'ensemble, de donner une certaine cohérence. Voilà, du lion, avoir du lion. Et voilà, donc on va commencer comme ça, on va voir, et c'est quelque chose qu'on aimerait développer, pouvoir proposer au fur et à mesure, pouvoir écouter aussi les textes. Pouvoir les podcaster. Et je pense qu'on pourra les podcaster, alors je ne sais pas si on peut les podcaster sur Radio Canu.
Alors il y a un blog où on pourra du coup retrouver les émissions enregistrées. voilà. Et les écouter. Et puis de toute façon, je pense qu'il y a aussi un lien sur la plateforme On Acte.
Et voilà, tout à fait. On pourra tout à fait les récupérer, les réécouter, les télécharger sur enacte.fr. Donc En Acte, c'est enactes.fr. Le site internet est plus ou moins en maintenance pour le moment. Donc vous pouvez, tout le monde peut s'abonner sur le site internet, mais il arrive parfois qu'en fait on ne reçoit pas, par exemple on peut s'abonner, donc c'est un abonnement via PayPal, c'est complètement sécurisé. On va essayer de développer d'autres types d'abonnements aussi, voilà. Mais parfois il arrive qu'en fait on ne reçoive pas les contacts, et ça a été un problème là qu'on essaie de résoudre. Donc numéro de téléphone et mail dont on a besoin pour l'abonnement. Donc si jamais vous souhaitez vous abonner là, vous pouvez tout à fait le faire via PayPal, on recevra donc votre don et votre soutien. Et n'hésitez pas à envoyer en plus, pour vérification, un mail à enacte.fr, donc ce sera dans la page contact hein, du ouais. site, pour dire voilà, je me suis inscrit telle date, mon nom, mon mail et mon numéro de téléphone. Ça nous permet nous d'être bien sûr pour le moment. Parce que bon voilà, on travaille avec Claire Ridan, donc qui travaille sur le site internet, voilà, et on essaye de développer le site, qu'il soit beaucoup plus facile d'accès. Et ça, c'est une partie pour nous assez complexe, parce que bah voilà, on fait avec les moyens qui sont les nôtres, donc en fait peu de moyens, ouais. vraiment peu de moyens.
C'est pas forcément votre domaine, enfin, je veux dire.
Voilà, après, c'est-à-dire que là, on n'en est pas. Quand on arrivera à avoir un certain nombre d'abonnés et qu'on sera en mesure de rémunérer et les auteurs et justement un webmaster, là, à ce moment-là, ça roulera tout seul. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On est vraiment au début de l'aventure. Et voilà.
Pour l'instant, il n'y a aucune rémunération qui ont été...
Si, les auteurs et autrices sont rémunérés pour le festival.
D'accord.
Vous
arrivez quand même à...
Oui, oui, tout à fait, Non, on essaye quand même.
Les comédiens, par contre...
Sont rémunérés sur les représentations, tout
d'accord.
à fait.
D'accord.
Donc, après, il faut aussi voir que c'est... on passe beaucoup de temps, mais on est tout à fait dans la loi, en fait.
C'est-à-dire, oui, non, c'était pas pour...
Alors, au début, on y a mis de nous-mêmes là-dedans. Mais là, vraiment, on arrive là à rémunérer tous les artistes sur les représentations. Et voilà, après, c'est un avenir assez incertain parce que, voilà, ça reste un laboratoire, un festival. Faut-il encore qu'un jour un théâtre puisse vraiment y trouver un intérêt et comprennent la démarche dans laquelle on est par rapport à ça.
C'est vrai que vous avez quelle visibilité par rapport, par rapport aux autres théâtres, par rapport aux acteurs culturels, un peu plus institutionnels, quelle est leur opinion par rapport à En Acte ?
Disons que c'est assez varié, je pense que c'est une initiative qui est vraiment saluée par le milieu aussi, par les artistes eux-mêmes qui apprécient cette démarche-là, tournée vers l'autre en fait, hein, très, très concrètement, parce que c'est vraiment notre point, notre travail en fait, c'est vraiment, je veux dire, c'est 10 créations qui ne sont absolument pas parties de la compagnie. Après, c'est encore très jeune en fait, on est trop peu. C'est-à-dire que pour qu'un festival soit visible, bah, il faut que la presse puisse le suivre, qu'il soit là, qu'elle soit présente. Et mis à part les trois coups qui ont vraiment été présents avec nous, ça, voilà, on n'a pas eu un suivi de la presse déjà pour commencer. Après, on verra. Après, je sais pas. Je sais pas quel avenir, je sais pas exactement à quel endroit un théâtre voudrait s'engager à cet endroit-là. Et puis aujourd'hui, on manque, on a énormément de talent à Lyon. Moi, je pense vraiment sincèrement, il y a des compagnies formidables partout et je n'en citerai aucune. Mais aujourd'hui, à Lyon, je trouve qu'on a un déficit d'accessibilité des compagnies lyonnaises à ces outils-là. Et concernant l'écriture contemporaine, notre démarche aussi, eh ben c'est pas forcément évident en fait d'accéder à ces outils-là, au théâtre, à la possibilité justement d'avoir de l'aide à la communication. Et cette année, je remercie, mais vraiment énormément de TNP qui l'accueillent. C'est-à-dire, c'est une chance énorme. Un théâtre qui, tout d'un coup, fait le pari de ces rencontres-là, de ce laboratoire-là, qui se dit, ben, la place de l'écriture aujourd'hui, la place de la langue qui pose cette place-là, là, du rêve, voilà, à portée de main, quoi, je sais pas, ben, qui soutiennent le festival, c'est franchement formidable, quoi, vraiment. Mais après, qu'à l'avenir, on n'en sait rien. Et ça.
Mais vous y croyez.
Mais en tout cas, on l'a fait. On l'a fait. Il existe. Voilà, il sera cette année. Peut-être pas l'année prochaine. Peut-être que voilà, ça finit. Mais en tout cas, ça existait.
Et puis on est autour d'une grande table en bois assez démesurément grande. Donc on va la toucher.
Ouais, touchons du bois. Exactement.
Touchons du bois. Vous êtes soutenu par la DRAC, par la ville
Alors il y a des aides. La DRAC n'aide pas forcément au festival. Voilà.
D'accord.
Donc voilà, on a été vraiment soutenu par la ville de Lyon. Mmh. On a été soutenu par la région cette année.
D'accord.
Qui nous a aidés. Oui, oui, on a vraiment. C'est pour ça. Non, mais c'est formidable. C'est vraiment bien. Ça reste voilà des petites sommes, mais c'est vraiment pour nous très important. Enfin, on a été soutenu par la SACD. Pas cette année, malheureusement. On appelle ce qu'ils appellent des années blanches. Et puis je crois que une année blanche, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, on a été soutenu depuis le début. Donc, ça fait sur les trois premières années. Voilà, là, on va entamer la quatrième année. Et en fait, au bout de trois ans, il y a une année sans subvention. Voilà, sans aide. Et puis, il est possible que la SACD choisisse de ne plus aider les festivals. Donc, voilà, après, on verra. Pour nous, ce qui est vraiment très dommageable, parce qu'en fait, on s'appelle festival parce qu'en fait, on rentre dans aucune case. C'est-à-dire qu'on est plus un laboratoire dans lequel on rémunère les auteurs directement pour leur travail. Et on n'est pas du tout, voilà, on met en valeur un texte avec la mise en scène d'un metteur en scène et des comédiens. C'est-à-dire que nous, on travaille avec l'auteur immédiatement.
Oui, c'est un dispositif,
voilà.
En plus.
Donc voilà, bon, ça, c'est pour nous. Toujours, de toute façon, de perdre des financements, c'est toujours dur. On a énormément été soutenus aussi par les Tréteaux de France. Et ça, c'est vraiment formidable. Tréteaux de France.
Tréteaux de France, c'est un.
Bah là, cette fois-ci, je vais pouvoir. des Tréteaux de France, c'est un CDN qui est actuellement dirigé par Robin Renucci. Et c'est un CDN sans théâtre, c'est-à-dire sans théâtre. Je reviens, je vais préciser. C'est-à-dire que leur objectif, en fait, c'est de jouer à l'extérieur, de décentraliser un maximum, d'aller dans les lieux où il n'y a pas de théâtre, justement, et d'aller à la rencontre du public. C'est leur mission première dans toute la France entière. C'est une super institution, le Tréteaux de France. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour le travail qui est fait de Robin, de ses collaborateurs. Donc, ils nous ont beaucoup soutenus au début. Ils nous ont donné un petit coup de pouce au tout début financièrement. Maintenant, ils ne nous aident pas financièrement, mais ils nous prêtent leurs tréteaux, en fait. Donc, les tréteaux sur lesquels les textes sont joués sont les tréteaux des Tréteaux de France.
D'accord.
Et ça,
c'est symbolique,
mais c'est symbolique, mais c'est formidable parce que c'est hyper important. Enfin, il faut venir voir, en fait, pour s'en rendre compte, comme le tréteau a une âme, hein, comme il est beau et comme il met en valeur magnifiquement les textes contemporains. Parce que c'est aussi ça en art, c'est-à-dire c'est faire le pari d'un art politique joyeux et de textes contemporains et accessibles. C'est aussi dire, bah, le théâtre contemporain, oublions un peu les préjugés qu'on peut en avoir.
Arte.
Non, même pas.
C'est le mot fiché de Arte, c'est là lui.
Oui, non, mais c'est-à-dire, tu sais, il y a quand même. Moi, par exemple, mes parents sont pas du tout du milieu, et quand je leur ai dit, bah, ils vont venir au festival, moi, mon père avait dit, c'est un théâtre de texte, mais bon, on y va pour faire plaisir à Maxime, quoi. Bon, ils s'en sont venus, ils ont été complètement surpris, parce qu'en fait, ils ne s'attendaient pas du tout, en fait, à se dire, ah, en fait, le contemporain, en fait, je comprends, en fait.
Mm-mm.
Je comprends tout à fait, c'est accessible, c'est pour moi, c'est aujourd'hui, ça parle même de moi, en fait. Et voilà, du coup, c'est une façon pour nous, en tout cas, de pouvoir aussi parler de ce théâtre-là, de cette écriture-là, des écrivains d'aujourd'hui.
De vous aussi, enfin.
Ouais, et puis d'être en lien, je sais pas, honnête et sincère avec le spectateur, enfin, les spectateurs, en fait. Tiens, pas du milieu, je veux dire, tous les spectateurs. Mm-hmm. Et de pouvoir dire. D'avoir cette accessibilité-là. Voilà. Et d'ailleurs, on se posera aussi la question de manière au niveau des tarifs, que je n'étais pas encore, puisqu'on est en train de les réfléchir. Mais voilà, pour que ce soit... D'ailleurs, le festival, cette année, donc, je disais bien, c'est 3 semaines, c'est 2 semaines de création, donc 10 pièces, plus 1 semaine. Alors là, c'est vraiment un essai sur l'écriture francophone. Voilà, donc on proposera des choses sur l'écriture francophone.
C'est-à-dire
Ouais, bah, ce sera une surprise.
Merci Maxime Mention pour cette émission en acte. Pour retrouver toutes les informations, je vous invite à consulter la page web enacte.fr, enacte E-N-A-C-T-E-S, et donc .fr. Avant d'écouter la première radio-fiction en acte, un petit morceau détente, le dernier morceau qui avait été donc choisi par Maxime Mention pour cette émission, et c'est Barbara.
Des nuits et des jours et des nuits d'amour. Toi, je le sais, tu pourrais même m'ensoleiller sous la pluie même. Avant toi, d'autres sont venus que je n'ai jamais reconnus. Pour toi, je ne suis pas la même. Toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime, tu me fais des nuits et des jours et des nuits d'amour. Tu me fais l'âge au clair de la lune, avec ta gueule de Jésus, tu es venu, oh bienvenu, et tu m'as griffé en douceur là, juste à la pointe du cœur, à la pointe du cœur, tu me fais la nuit, le jour, et le jour, et la nuit, l'amour, et dans tes bras, je fais naufrage, sans même quitter le rivage, j'ai beau connaître mon affaire, du boy scout jusqu'au légionnaire. Devant toi, j'étais vraiment dure le jour où tu m'as dévêtue. Tu m'as faite au premier matin, timide et vierge, vierge et catin. Pour toi, je ne suis plus la même. Toi, ce n'est pas pareil. Je t'aime.
Et c'est donc sur cette terre d'accordéon que je vous invite à écouter un extrait de la première radio-fiction en acte, intitulée Sim.
Quand mes parents se sont vus attribuer un logement social à la cité des Coteaux, ils étaient aux anges. J'y étais pas, je les ai pas vus, mais on me l'a raconté. L'histoire s'est transmise et continue de se transmettre. Elle peuple les souvenirs de la famille, tout autant que les Polaroids jaunis que maman tente tant bien que mal de garder en vie. Une, particulièrement, exprime à la fois le tragique et le comique de notre histoire. C'est une photo de papa, en combinaison bleue, de l'époque où il était ouvrier fondeur chez DMC. La tête a disparu. À sa place, une grosse trace d'empreinte digitale laissée par un pouce qui a dû emporter l'image. C'est fragile, un Polaroid. Maman, malgré ça, garde jalousement la photo. Les Polaroids sont encadrés et figés derrière un carré de verre. Ils étaient heureux quand on leur a attribué ces 4 pièces. La régie de l'habitat leur avait même laissé le choix de l'étage. Papa et maman n'ont pas hésité, ils ont choisi l'étage le plus haut. Mes parents descendent d'une tribu druze nichée dans le Djebel Shila, le plus haut sommet des Aurès. Les légendes disent que le peuple de cette tribu est celui qui est le plus proche du ciel, donc de Dieu. Il est l'intermédiaire entre le Tout-Puissant et les autres hommes. C'est pourquoi il se doit de tout sublimer aux yeux des hommes, pour toujours, en prélude de la grande lumière et de la clarté céleste. Mais aussi aux yeux du Tout-Puissant, pour lui donner le meilleur profit des hommes et de la création, afin que jamais il ne se détourne de ses brebis, même égarées, et toujours montre la voie aux âmes pécheresses. C'était une tribu d'artistes, d'artisans et de paysans, cultivant la douceur et la beauté. Avec ses poètes, ses calligraphes, ses tisserands de génie, ses danseurs hors pair, excellent dans les arts culinaires, l'orfèvrerie, la décoration, la poterie, vénérant Dieu sans artifice, sans liturgie, ni lieu de culte, sans d'autre contrainte que de le reconnaître toujours et dans chaque instant de la vie. Dans chaque action, comme la source de toute chose, que toute chose doit sublimer. J'ai toujours adoré écouter mon père raconter. Se raconter ou raconter le monde réel ou imaginaire. Je me souviens encore de certains soirs où, de mèche avec maman, il éteignait toutes les lumières, déplaçait la table basse du salon et nous faisait asseoir en ronde sur le tapis persan en couleurs chatoyantes, cachant le lino couleur coquille d'œuf qui habillait le plancher. C'est alors qu'il nous amenait d'une voix douce et musicale vers les montagnes de son enfance revivre l'histoire de son peuple, qui fut transporté par Dieu sur un nuage depuis la Jordanie jusqu'au Djebel Chali. Ensuite, mes parents se mettaient à chanter. Leur voix s'élançait, formait une mélodie qui faisait vibrer mon âme. Le jour où mon père m'a raconté la légende des Druzes de Djebel Chali, je lui ai pardonné d'avoir choisi de vivre au 18e étage de la tour Espoir à la cité des Coteaux. Il était resté fidèle aux croyances de chez lui. Il était un homme des cimes. Il venait d'un peuple qui affectionne les hauteurs. Il n'y avait rien de plus normal pour lui que d'être le plus proche du ciel, comme quand il était dans ses montagnes natales. Il était impératif que pour fonder une famille, il s'inscrive dans les références les plus exquises de sa culture tribale. C'était un cadeau qu'il nous faisait. C'était un pari sur l'avenir. Mon père, je le crois, faisait confiance en ses capacités pour élever ses trois enfants en plaine glaciale de la France, comme il l'aurait fait dans les montagnes arides et fraîches du Djebel Chali. Les jours de panne d'ascenseur, j'arpentais la longue cage d'escalier avec courage. Sac de course sur la tête, je sifflotais les chansons que nous apprenait maman sans comprendre ce qu'elle voulait dire. 18 étages. Pendant 18 ans, mon Djebel à moi, c'était ici. Je n'ai pas gardé les moutons, je ne suis pas allé chercher du sel dans la vallée, j'ai pas arpenté les bosquets pour y chercher des branches mortes afin de maintenir la chaleur du foyer. Aucune fête n'a été donnée lors de ma circoncision, aucun mouton n'a été égorgé pour l'occasion, mais enfin, enfant, je m'y croyais, dans le Djebel Chali. J'ai grandi dans un conte, dans un rêve. Dernier de la famille, c'est moi qui faisais de l'ombre à ma sœur et mon frère. J'étais choyé et comblé. Je suis né avec la marque des poètes. 5 grains de beauté qui, reliés par une droite les uns aux autres, forment un pentagone, réceptacle de l'étoile Druze. C'est ainsi que, depuis des siècles, la tribu désignait les futurs grands artistes qui sauraient perpétuer et faire rayonner son prestige. Voilà que j'arrivais, avec tous les signes du prodige, en pleine Europe de l'Ouest, au pays de Molière, rejeton de la masse laborieuse. Le vrai poète, pourtant, c'était mon père. Qu'est-ce qu'il était pur, profond et sensible. Je ne me souviens pas un seul de ses conseils qui n'ait contenu une image éloquente, une parabole pleine de sens. Il jouait de l'oud et ma mère chantait en balançant son corps de la gauche vers la droite et pour nous, le temps s'arrêtait. Je n'ai jamais eu à me plaindre de ces deux-là. Comme parent au sens strict du terme, j'ai de l'admiration pour eux, pour avoir pu créer, maintenir, dans ces tours lugubres, dans cet espace infécond, cet amoncellement de vie en tiroir, un environnement où nous avons grandi, insouciants, heureux et plein de rêves. Ma sœur était une fleur, la fantaisie de mon père, le bijou de maman. Il disait d'elle qu'elle avait tout d'une future orfèvre. Mon frère avait une élégance et une nonchalance princière, sa voix imposée qu'on l'écoute, sa douceur invitait à lui faire confiance. C'était un futur chef. Ces rôles nous allaient bien grâce à eux. Nous traversions notre condition de fils d'ouvrier harki, comme on se faufile entre les gouttes d'une averse.
Voilà, c'était donc le premier extrait de la radiofiction Les Cimes, sous la direction de Maxime Mention, avec à la lecture Sven Narbonne et au son Simon Padiou. Et c'était un texte donc de Ghislain N. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté cette émission. Juste avant de finir, juste un petit point agenda. Vous pouvez retrouver Sven Narbonne sur IA ce soir et demain. Ce soir à 19h30 et demain à 16h30. C'est un texte de David Mambouche mis en scène par Olivier Borle et ça se passe au théâtre des Clochères Célestes. Et le 2 novembre à 19h au Bal des Fringants, nous vous proposons un bestiaire musical. C'est une pièce donc musicale forcément et clownesque, qui est proposée par la compagnie Vadé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour le théâtre de la Gamelle.
Il était sous son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.